Chers auditeurs, comme chaque mois, votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel vous fait découvrir donc d'autres facettes de l'histoire locale, grâce notamment aux découvertes réalisées lors des fouilles ou études menées à Chartres par les archéologues de la ville. Aujourd'hui, je suis de nouveau en compagnie de Stéphane Hérouin. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane est anthropologue donc au sein de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres et aujourd'hui, on va partager ses connaissances sur les pratiques funéraires. Stéphane, la dernière fois, nous avions déjà évoqué les pratiques funéraires. Néanmoins, aujourd'hui, il y a deux événements qui nous amènent à revenir sur ce sujet passionnant. Une conférence dans le cadre des Mardis de la Science, qui aura lieu donc mardi 16 mai à 20h30 au pôle universitaire de Chartres. Et la publication d'Archéo 25, qui est ce mini-magazine qui relate, là pour le coup, de l'ensemble des pratiques que vous avez pu observer à Chartres. Et il y a des sujets qui seront abordés et que nous n'avions pas eu l'opportunité d'évoquer la dernière fois dans l'émission.
Oui, effectivement, c'est un sujet d'étude principale qui va être source de nombreuses réponses pour répondre aux questionnements, en fin de compte, des archéologues en particulier et aux historiens.
Stéphane, en introduction, est-ce qu'on peut juste rappeler ce qu'est le métier d'anthropologue ?
Alors l'anthropologue, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est effectivement le spécialiste qui va étudier l'homme et son évolution au sens large. Et en archéologie, c'est celui qui va étudier les ossements humains, forcément, d'un point de vue biologique, pathologique, métrique, etc., pour déterminer un petit peu l'individu, on va dire, et puis l'étude des pratiques funéraires, donc le sujet de cette émission.
Et quels sont les principaux types, justement, de traitement des morts ? Quelles sont ces pratiques funéraires ?
Alors, le traitement des morts, on va dire qu'il y a deux grands types, bien sûr, qui sont bien connus, qui sont l'inhumation et la crémation. Donc, l'inhumation, c'est le fait d'enterrer ses morts. Mmh. On verra plus tard qu'il y a plusieurs solutions, bien sûr, pour le faire. Et la crémation, le fait de brûler ses morts.
Et à Chartres, ou sur le territoire chartrain, quelles sont les traces ou observations les plus anciennes de ces pratiques ?
Alors c'est lors des travaux, enfin lors d'un diagnostic archéologique en 2015, qui a eu lieu sur le plateau nord-est, donc c'est très récent, hein, nous avons trouvé trois sépultures à inhumation, donc des défunts qui sont enterrés, qui datent du premier âge du fer, donc on est à 750-400 avant Jésus-Christ, et qui sont probablement associés à un bâtiment circulaire en bois et torchis, probablement à vocation funéraire.
On va entrer donc directement dans le cœur de notre émission, Stéphane. Pour vous guider, chers auditeurs, nous nous intéresserons donc tout d'abord aux pratiques de l'inhumation, puis à celles liées à la crémation. Et nous évoquerons à chaque fois des découvertes emblématiques observées par Stéphane. Donc Stéphane, après ces inhumations gauloises, quelles sont les autres traces dans les siècles qui suivent d'inhumations découvertes à Chartres ?
Alors on va avoir des petits hiatus chronologiques, mais on va retrouver quand même des inhumations vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Alors elles sont quelques-unes pour l'instant, donc on n'a pas réellement des cimetières qui se dessinent, enfin des nécropoles, pardon. Il va falloir attendre le 4e siècle après Jésus-Christ pour avoir une vraie nécropole, donc il y a celle de Saint-Barthélemy, qui regroupe plus d'une centaine d'inhumations. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de 70% de ces sépultures ont des objets associés aux morts.
D'accord.
Donc ce qu'on peut appeler des offrandes ou des objets portés, par exemple.
Juste Stéphane, le site de Saint-Barthélemy pour les Chartrains, il se situe où dans la ville ?
Alors il est juste à côté de la place Morard, hein, c'est les bâtiments assez neufs où il y a laboratoire d'analyse médicale, etc. Juste avec l'avenue Lallet.
D'accord. Et là, combien de sépultures vous avez retrouvées exactement ?
Alors il y a eu 122 sépultures, très exactement. Et comme je le disais, donc il y a une utilisation majoritaire du coffre cloué. Bon, généralement, les défunts sont déposés sur le dos, avec des objets funéraires qui sont très abondants dans cette nécropole.
C'est-à-dire, Stéphane, que ces défunts-là sont dans des cercueils, on peut dire ça comme ça ?
Alors, on dit coffre cloué parce que pour savoir si c'est réellement un cercueil, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir si on a transporté le mort dans le coffre. C'est-à-dire que le dispositif en bois peut être soit associé ailleurs Et donc là, effectivement, on va transporter le corps dedans, soit associé sur place. Et d'accord. Ça, c'est très difficile des fois de le mettre en évidence.
Mais là, vous avez donc retrouvé, entre guillemets, pardon pour le mot, c'est pas très adapté, mais un contenant en fait. Le corps n'est pas déposé à même
Voilà,
la terre.
tout à fait. Là, en majorité, les corps sont déposés dans un contenant en bois.
Et il y a donc des objets qui sont associés à ce, à cette, enfin, je sais pas si on dit nécropole encore, mais
Oui, on
oui.
dit encore nécropole. Donc nécropole, littéralement, ça veut dire ville des morts. Et la différence avec le cimetière, c'est qu'en général, le cimetière est associé soit à un bâtiment religieux, soit est un espace un peu sacralisé, on va dire. Donc là, les objets qui sont associés à ces défunts, ça va être soit les effets personnels du défunt, tout simplement, hein, donc des colliers de perles, des bracelets, des fibules, par exemple. Mais ça peut être aussi des objets déposés avec le défunt. Et dans cette nécropole, par exemple, on a des petites niches latérales autour de la fosse dans lesquelles on a retrouvé des assiettes, par exemple, avec des dépôts de poulet en particulier.
Et c'est quoi? Ce sont des offrandes,
Alors là, on
c'est...
peut parler d'offrande, entre guillemets, on va garder ce terme d'offrande parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Effectivement, donc là, vous voyez qu'on met en évidence des gestes funéraires. C'est-à-dire, là, on va plus loin que juste le mort. On voit des gestes pratiqués par les vivants lors du dépôt du défunt dans la fosse.
Donc cette nécropole avec une centaine donc de tombes, et il y a d'autres sites un peu de cette époque qui ont été découverts à Chartres, ou c'est le seul exemple?
Alors, pour le IVe siècle, c'est le seul exemple. Et juste un petit peu au-dessus, donc à Saint-Chéron. Là, tous les Chartrains connaissent, hein, puisque le quartier n'a pas changé de nom. Donc, sous le lycée Fulbert actuel, nous avons une autre nécropole qui est un petit peu plus tardive, donc qui est 5e, 6e siècle, où plus de 500 sépultures ont été fouillées, mais sur plusieurs milliers. Là, c'est une très grosse nécropole. Et ce qui est intéressant, c'est que. Alors, on parle encore de nécropole, parce qu'on n'a pas trouvé de bâtiment associé à caractère religieux, mais peut-être que c'est déjà un cimetière, hein, quoique.
Le
Cette datation-là,
christianisme,
c'est
oui.
juste le début du christianisme, donc ça va être assez difficile à mettre en évidence. On est toujours en dehors de la ville, c'est ça qu'il faut retenir aussi, que par la période antique, les nécropoles sont à l'extérieur de la ville, le long des voies d'accès principales, les voies d'accès principales à la ville, oui, tout à fait. La grosse différence, alors certes, on va voir une meilleure organisation de la nécropole, donc on voit des rangées qui se dessinent, par exemple, donc on voit une organisation un peu plus
Oui.
stricte, un peu plus normée, on va dire. Mais c'est surtout qu'il y a très peu de mobilier cette fois-ci, c'est-à-dire que, vous voyez, on n'est qu'un siècle ou 2 siècles après, et ce geste de déposer du mobilier, des objets avec le mort disparaît quasiment totalement.
D'accord. Donc on a une évolution des pratiques, et est-ce qu'on a une évolution aussi de la manière d'ensevelir nos morts? Là, on avait vu dans le premier cas, on avait eu comme donc un contenant en bois. Est-ce que là, il y a d'autres choses qui sont différentes dans cette nécropole-là?
Comme je vous le disais, effectivement, donc on va avoir une meilleure disposition, une meilleure organisation de la nécropole. Et par rapport à Saint-Barthélemy, on avait des dispositions un petit peu différentes, enfin des orientations un peu différentes dans les tombes, parfois. Donc on avait deux groupes essentiels de tombes, hein, donc certaines qui étaient sud-nord, d'autres ouest-est, par exemple. Là, systématiquement, elles vont toutes avoir la même direction. Elles sont toutes ouest-est. Donc.
D'accord.
Et puis, effectivement, ça va être une utilisation beaucoup plus majoritaire des cercueils, etc. Et puis, même dans la disposition des corps, on va voir quand même des récurrences. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une pratique funéraire normée qui s'installe.
Stéphane, dans ce type de nécropole, est-ce qu'on n'a que des fosses avec des contenants en bois, ou est-ce qu'il y a déjà, comme pour nous, des tombes en dur, entre guillemets, ou en pierre qui apparaissent?
Alors en effet, sur le site de Saint-Chéron, il y a 9 tombes maçonnées qui ont été mises au jour, parfois entourées d'un enclos en pierre, donc c'est assez particulier quand même, et qui peuvent abriter une ou plusieurs personnes. On voit sans doute que là, il y a un rang différent, on va dire. On voit qu'il y a des gestes un peu particuliers pour ces morts-là, donc un rang, alors social entre guillemets, mais un rang différent de ces personnes pour avoir ce type d'inhumation un peu particulier. Pareil aussi dans les fosses, on ne va pas avoir que des fosses, on va commencer à avoir des calages en pierre qui s'installent, etc. Donc on n'a pas que le contenant en bois, effectivement. Comme à Saint-Barthélemy, on va avoir beaucoup de calages aussi visibles.
D'accord. Et est-ce qu'au cours du temps, parce que là on est déjà bientôt 5e, 6e siècle, comment enterre-t-on ces morts, du coup, par exemple, au tout début du Moyen-Âge?
Alors, il va y avoir des différences qui commencent à s'installer. Donc là, on est toujours en dehors de la ville, mais on va voir qu'à partir du VIe siècle, alors c'est en général, ça peut varier selon les régions, les morts vont commencer à rentrer dans la ville. Hein, parce qu'on sait bien qu'au Moyen-Âge, effectivement, les cimetières sont soit autour des bâtiments religieux, donc dans la ville, soit carrément dans l'enceinte des bâtiments religieux. Mais là, c'est des cimetières un peu particuliers. On peut citer par exemple l'église de Saint-Martin-en-Val, qui est une église très importante pour Chartres, probablement l'une des premières qui est construite. Dans les fouilles qui sont en cours donc à l'intérieur de l'église, ont été trouvés plusieurs sarcophages, une petite vingtaine, des 6e, 7e siècles après Jésus-Christ. Donc on est en pleine période mérovingienne. Et ces sarcophages, bon, donc déjà c'est un élément intéressant, puisque certains sont décorés en plus, nous indiquent en fait, et surtout ce qu'on trouve à l'intérieur, nous indique que là, probablement, on a une sorte d'élite qui est inhumée dans cette église. Donc c'est un lieu important, effectivement.
Et là, à ce jour, depuis les débuts de la fouille, combien de sarcophages vous avez pu observer ? Est-ce qu'il y a des découvertes particulières qui confirment du coup l'hypothèse d'une élite ou...
Alors, en effet, donc il y a 18 sarcophages pour l'instant qui ont été mis au jour. Ce qui est intéressant, c'est la découverte lors de la fouille en 2016 d'un bébé âgé entre 5 et 8 mois, donc inhumé dans un sarcophage prévu pour, hein, il est à sa taille. Et cette découverte est exceptionnelle à deux titres, puisque déjà retrouver un bébé dans ce contexte pour l'époque mérovingienne, c'est très rare. Et qui plus est, c'est le mobilier qui est associé avec ce bébé, qui est très riche. Donc des objets très riches, hein, donc par exemple des perles en pâte de verre, un bracelet autour du poignet, mais surtout une soixantaine de fragments de lamelles d'or qui étaient tout autour de la tête et du cou, probablement la trace d'une coiffe sur ce bébé. Alors bien sûr, des lamelles d'or, on voit tout de suite un petit peu quelqu'un de prestigieux.
Voilà, de prestige. Et du coup, c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler du fait qu'on enterre des enfants dans des églises. Qu'est-ce qui a pu motiver ce geste ?
Alors effectivement, là, on voit que c'est un geste assez particulier, qui est quand même assez exceptionnel. Hein. La découverte a fait grand bruit. On voit que là, c'est sans doute le rang de l'individu, en tout cas le rang de sa famille, qui a fait qu'on l'a mis à cet endroit-là. On sait que Saint-Martin-en-Val est probablement une église importante, puisque c'est probablement le lieu d'inhumation des premiers évêques chartrains.
D'accord. Donc ce bébé qui appartiendrait à l'élite chartraine de l'époque, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux d'inhumation, puisqu'il n'y a pas... qu'à l'intérieur des églises, il y a aussi les cimetières. Où se trouvent-ils à cette époque ? Est-ce qu'on en a quelques traces ?
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du VIe siècle, on va voir donc ces premiers regroupements, on va dire, en périphérie de la ville au début, et puis pendant la phase suivante, on va dire, vers le 7e, 9e siècle, on va vraiment voir là les morts se regrouper. Enfin, ce n'est pas les morts qui se regroupent, bien sûr, mais l'installation des cimetières à l'intérieur de la ville médiévale. On en a un exemple, par exemple, juste à côté de l'église Saint-Martin-en-Val, donc sur la place Saint-Brice, où on a trouvé un cimetière probablement paroissial, qui devait être associé à l'église Saint-Brice, qui n'existe plus actuellement, et qui, lui, est daté des 11e, 13e siècles.
Et est-ce qu'il y en a d'autres découvertes de ce type pour cette époque ?
Alors, il y a d'autres découvertes, effectivement, pour l'époque médiévale. Hein. Bon, on ne va pas toutes les citer, mais on peut citer le cas particulier de l'église Saint-Pierre, où on a à la fois donc, le cimetière Saint-Hilaire. Donc, l'église Saint-Hilaire n'existe plus, elle était accolée à l'église Saint-Pierre, puisque c'était une abbatiale, où se développe le cimetière paroissial tout autour. Et à l'intérieur de la zone... sacrée, enfin religieuse, on va dire, donc dans le cloître du couvent en particulier, on va trouver un autre cimetière contemporain, mais probablement plutôt réservé donc à la population religieuse.
D'accord. Donc là cohabitent donc dans le quartier Saint-Pierre ces deux cimetières, celui du cloître et celui des paroissiens.
Tout à fait.
Qui était là à cette époque, donc l'église paroissiale Saint-Hilaire qui était accolée, qu'on ne voit plus du tout hein, aujourd'hui. Encore un petit tracé
il y a juste un début
sol,
de mur qui,
voilà.
qui est visible, effectivement, mais elle a totalement disparu.
Est-ce qu'il a existé, en plus de ces nécropoles, de ces cimetières. Quelques pratiques particulières, est-ce que, en tant qu'anthropologue, vous avez eu l'occasion d'observer des, je sais pas moi, des pratiques qu'on n'aurait pas imaginées?
Alors, on trouve effectivement, donc, on voit des gestes qui sont assez récurrents, etc. Donc, on voit des pratiques qui sont assez régulières. Et puis, à côté de ça, on va trouver des gestes un peu plus particuliers, effectivement, qui dénotent un peu avec les pratiques que l'on connaît pour l'époque. Alors, on peut citer plusieurs exemples, sans forcément approfondir, mais on en a déjà parlé. Il y a bien sûr cet ensemble funéraire qui a été retrouvé rue de Reverdy, où sont déposés dans des vases des tout-petits, donc des tout-petits, c'est des fœtus ou des morts-nés, hein, donc des enfants très bas âge, donc qui sont inhumés dans des vases. Donc c'est pas inédit, hein, on retrouve ça dans d'autres villes, mais c'est vrai que là, il y a une centaine de vases, dont à peu près la moitié où il y a un bébé à l'intérieur. Donc c'est un ensemble quand même assez important. Et nous sommes à la fin du deuxième, début du troisième siècle. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que les bébés sont inhumés dans le vase, puisque pendant la période antique, il est rigoureusement interdit de brûler les enfants.
D'accord, donc des petits enfants, vraiment des
On est vraiment autour de la naissance, là. Donc,
hein,
c'est vraiment un espace réservé, on va dire. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que c'est les seules sépultures que l'on retrouve. On n'a pas d'adultes, on n'a pas d'adolescents, on n'a pas d'enfants. C'est vraiment ces tout petits qui sont inhumés ici, qui sont déposés ici, dans cet espace.
Et surtout dans ce vase, dont la forme évoque quand même un peu la matrice, enfin l'utérus de la maman, elles sont
c'est
quand
ça,
même...
C'est ça, il y a certains vases, si on les renverse, effectivement, ça peut faire une représentation symbolique de la maman. Donc peut-être là, un geste symbolique aussi quelque part, de les mettre en vase, c'est-à-dire ce retour vers le corps de la mère, en fait. Mm-hmm.
Et surtout, ce qui était intéressant, Stéphane, c'est que à partir de quel âge les enfants sont acceptés ou intégrés aux nécropoles où il y a les adultes à cette époque-là, durant l'Antiquité?
Ça peut être assez variable, donc c'est assez difficile à déterminer, c'est d'autant plus difficile à déterminer, c'est que généralement les enfants sont inhumés moins profondément dans les nécropoles, mmh. et donc on ne les retrouve pas régulièrement.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'on a une vision biaisée, en fin de compte, dans les nécropoles que l'on fouille.
Voilà, vous ne pouvez pas voir toutes les traces de tous
voilà,
les
donc
corps.
C'est difficile de déterminer un âge précis. Il n'y en a mm-hmm. sans doute pas, ça doit être très variable. En fait, ça doit être le statut social de l'enfant, c'est-à-dire quand il est reconnu comme une personne, qui fait qu'il entre dans la nécropole.
Mm-hmm. Il y a un autre exemple dont on a parlé, nous, en coulisses, et dont on parle là à l'antenne, c'est une découverte dans un puits.
Oui. Alors ça, c'est très particulier, en revanche, c'est pas inédit non plus, mais c'est quand même assez rare, surtout pour la période antique. Donc c'est rue des Grandes Filles Dieu, nous avons pu fouiller un puits, effectivement, dans lequel nous avons retrouvé quand même 8 individus, quasiment complets, et c'était que des enfants ou des adolescents. Alors, bon,
on
après...
sait pourquoi, non? Ils auraient pu être...
Alors là, c'est difficile aussi à déterminer, parce que bon, forcément, les méthodes de fouille sont un peu particulières. Il y a la nappe phréatique, donc l'eau, donc ce qui n'aide pas
à conserver
ouais. forcément, voir si les individus, par exemple, sont complets, enfin, sont en place, en tout cas, mm-hmm. ou si c'est des fragments d'individus. Il peut exister deux hypothèses, en fin de compte, pour expliquer ces individus dans ce puits. Soit ce sont des... sépultures de relégation, entre guillemets, donc c'est-à-dire que c'est bon, des sépultures un peu particulières, ça reste des sépultures tout de même, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu en marge de la société, soit c'est carrément des privations de sépultures, c'est-à-dire qu'on a jeté ces individus dans le puits, là c'est un geste effectivement tout à fait différent, et donc là c'est carrément des personnes qui sont exclues de la nécropole, et il peut s'agir de voleurs par exemple, ou d'autres personnes.
D'accord, donc là, il y a vraiment peut-être une intention d'écarter cette dizaine de corps de la nécropole.
Voilà, ça montre un geste effectivement très particulier, alors qu'on retrouve dans d'autres villes, hein, bien entendu, qu'on a peut-être un deuxième exemplaire à Chartres, mais il faudrait reprendre les études pour le savoir. Mais c'est quand même un geste très particulier.
Mmh. Il y a aussi une autre découverte particulière qui est la fosse de Saint-Martin-Val. On l'avait évoqué dans l'émission précédente, mais pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu l'occasion de l'entendre, c'est quand même là aussi une découverte très très, enfin qui porte beaucoup de questions quand même, qui pose beaucoup de questions.
Oui, alors donc ces individus dans la grande fosse, alors je vais faire assez rapide parce qu'effectivement nous en avions déjà parlé, juste pour rappeler donc qu'on a plus d'une centaine d'individus. Le décompte n'est pas encore définitif, mais on est déjà à plus de 130 individus qui sont donc déposés dans une très grande fosse en différentes phases, on le sait. Il y a des sépultures, il y a des dépôts de corps carrément dans la sépulture, etc. Enfin, dans la fosse, pardon. Et dans un temps assez bref. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, donc, beaucoup de morts en même temps, dans un temps assez bref, c'est ce qu'on appelle une crise de mortalité. C'est-à-dire que là, nous avons un pic de mortalité, donc on a beaucoup de morts en même temps. Mmh. Et il faut bien sûr chercher à comprendre pourquoi il y a tant de morts en un temps assez bref. Alors, on l'avait déjà évoqué, donc je vais privilégier l'hypothèse qui est pour l'instant retenue, donc qui est celle de l'épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est que d'après les objets que nous retrouvons dans les couches archéologiques, on serait aux alentours de 270-280 après Jésus-Christ. Or, d'après les textes, parce que d'après les études, on s'oriente vers une peste. On va dévoiler un peu
le résultat.
Et la seule peste connue pour cette époque, qui est donc vers 251-260, c'est la peste dite de Saint-Cyprien. Alors elle arrive d'Éthiopie, donc elle a quand même bien diffusé, donc elle est passée par l'Égypte, etc. Et on sait qu'au plus fort de cette épidémie, il mourait quand même 5000 personnes par jour à Rome. Donc c'est quand même une très grosse épidémie. Et elle a probablement aussi été la cause de décès de deux empereurs romains, donc qui sont Hostilien en 251 et Claude le Gothique en 270. Alors on voit que 270, c'est après le pic de l'épidémie, mais la peste, ça dure un certain temps, bien entendu, après le pic. Hein. Donc 270, on voit que les dates quand même correspondent à peu près. Donc on peut imaginer que cette épidémie a été, par exemple, transportée par les troupes romaines jusqu'à Chartres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si c'était vraiment le cas, et ça, les analyses de l'ADN seront la seule réponse, nous aurions à Chartres l'une des seules traces de cette épidémie connue en archéologie.
Donc on aurait à Chartres un exemple de cette épidémie de peste qui était connue donc dans tout l'Empire romain. Et donc on a là vraiment un sujet d'étude passionnant. Et vous, comment vous travaillez, juste petite parenthèse pour les auditeurs, vous évoquez l'ADN en fait pour avancer dans vos recherches, ou vous focalisez du coup sur quoi exactement ?
Voilà, donc ce qui est intéressant avec la peste, c'est que l'ADN de la peste est connu. Donc on peut le comparer, par exemple, avec nos échantillons que l'on va pratiquer sur les ossements. Et si on retrouve le même ADN du bacille, là on aura la preuve irréfutable qu'il s'agit bien de la peste.
Donc étude en cours à confirmer bientôt.
Voilà,
c'est ça.
Ce sera la suite au prochain épisode.
Effectivement, Stéphane, en début d'émission, nous évoquions un autre traitement des défunts qui est la crémation. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment sont brûlés les corps, ou comment vous les retrouvez ?
Donc pour la crémation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, hein, c'est pas une mode moderne, on va dire. Hein, la crémation, elle est apparue il y a quasiment 9000 avant Jésus-Christ. Mais elle est surtout très développée pendant la période gauloise et pendant l'Antiquité. Alors ces morts, ils sont brûlés bien sûr des bûchers qui peuvent être soit individuels, soit collectifs. Bien sûr, s'ils sont collectifs, on ne brûle pas les gens en même temps. Hein. Ça veut dire que c'est le même bûcher qui est réutilisé régulièrement. Ça, des bûchers, pour l'instant, on n'en a pas retrouvé sur Chartres. On ne doit pas être très loin sur certains sites, mais on va y revenir. Il peut y avoir une structure un peu particulière, c'est-à-dire on creuse une petite fosse, on met le bûcher dessus, on brûle le mort et on va le laisser sur place. C'est ce qu'on appelle, nous, une tombe bûcher. C'est-à-dire que le mort va brûler, en fin de compte, sur le lieu définitif de sa tombe. C'est quand même pas le geste le plus fréquent, bien entendu. Dans les autres cas, donc, après le refroidissement, donc l'officiant va arriver soit avec un vase, soit avec un sac, etc., va récolter une partie des ossements brûlés, ou la totalité. va les déposer soit directement dans le vase, soit le transporter avec un sac, le mettre dans le vase ensuite, etc. Ou le mettre directement dans une fosse dans la nécropole. Mais on voit que là, les ossements sont transportés du bûcher vers la nécropole.
Et ça, c'est le cas le plus fréquent que vous ayez découvert à Chartres ?
Alors, c'est le cas qu'on retrouve essentiellement à Chartres, effectivement. Donc, deux grandes nécropoles ont été retrouvées dernièrement, deux grandes nécropoles gauloises, donc sous le site, enfin sous le cinéma actuel, hein, donc avec une 25 crémations qui ont été retrouvées, donc soit en fosse, soit en vase, comme je vous l'indiquais. Et aussi, donc, à l'angle des rues Casanova et rue Nicole, où on a 10 crémations contemporaines avec celles du cinéma. Donc là, on est 1er siècle avant Jésus-Christ.
Et parfois, quelques objets ont été associés dans ces vases, je crois.
En effet, donc dans les vases ou dans les fosses, donc on va retrouver les ossements humains brûlés, donc qui sont reconnaissables pour l'anthropologue, puisqu'ils sont certes fragmentés, mais ils ne sont pas réduits en cendres comme on pourrait le penser.
D'accord. Ils sont...
Voilà, ils sont encore, encore des bouts, donc, enfin encore des fragments, et on peut les reconnaître. Associé, en fin de compte, ça va être comme une inhumation, associé avec ces ossements du mort, on va pouvoir retrouver des objets personnels ou des offrandes, encore une fois, soit dans le vase, ou dans la fosse, donc du coup, ou soit dans la fosse du dépôt du vase, puisque le vase, on ne le pose pas, bien sûr, sur la terre de la nécropole, on va creuser une petite fosse pour mettre le vase en terre. Donc il va s'agir encore, comme pour les inhumations, on va retrouver soit des monnaies, par exemple, des fibules, donc qui soient soit en fer,
les
soit
qui
servent pour les vêtements, sachant que le feu, en plus, les préserve plutôt bien, donc on peut les retrouver entières, contrairement aux inhumations où des fois l'acidité du sol ne nous aide pas. Et puis on peut citer, par exemple, pour une des crémations de Lillo Casanova, donc un miroir. Donc ça,
d'accord,
c'est quand même
un objet particulier.
Donc là, en plus, la particularité, c'est qu'il est rectangulaire, alors que d'habitude, on les retrouve plutôt circulaires.
Merci Stéphane, en tout cas, pour cette nouvelle émission sur les pratiques funéraires. En tout cas, c'est l'occasion de rappeler deux événements pour en savoir un petit peu plus. La conférence Les Mardis de la Science, le 16 mai à 20h30 au pôle universitaire de Chartres, mais également dans le Votre Ville ou dans le petit magazine Archéo numéro 25, un développement un peu plus complet que vous aurez l'occasion peut-être de télécharger sur le site de chartres.fr ou archéologie.fr. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission précédente ou les précédentes, n'hésitez pas à taper radiograndciel.fr pour les réécouter. À très bientôt en tout cas pour la prochaine émission.
somebody to leave.